I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, c'est Sophie de Chivray. Cela fait un an et demi que j'ai lancé Au revoir podcast et je vais avoir besoin de ton aide, de votre aide, pour aborder plus sereinement son avenir. Jusqu'à présent, j'ai utilisé mes économies pour financer la réalisation de tous les épisodes et j'ai travaillé bénévolement pour produire des dizaines et des dizaines d'heures de contenu gratuit afin de lever le voile sur le deuil périnatal et vous donner la parole. Je dois vous avouer qu'entre le matériel et les abonnements payants qui reviennent tous les mois, je ne suis plus en mesure de financer le podcast toute seule. Alors si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce, j'ai mis en place une page sur la plateforme de financement participatif Tipeee. Le principe, il est ultra simple. Il suffit de se rendre sur la page du podcast Tipeee, tipeee.com/au revoir podcast, je vous mets le lien dans la description de l'épisode, et de faire un petit don ponctuel à partir d'un euro. Et si vous voulez soutenir le podcast autrement qu'en donnant de l'argent, il y a bien sûr d'autres possibilités. N'hésitez pas à vous abonner à la page aurevoir.podcast sur Instagram, à liker les posts, à partager les épisodes sur les réseaux sociaux ou à mettre 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est super important de soutenir vos podcasts favoris sur les plateformes car cela permet de mieux les référencer et de leur donner davantage de visibilité. Et plus de visibilité pour Au revoir podcast, c'est aussi plus de visibilité pour le deuil périnatal. Et pour ça, j'ai besoin de vous. Je ne vais pas y arriver toute seule. Je vous remercie par avance pour votre soutien. Et maintenant, place à l'épisode. Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce programme abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment de fausses couches, d'interruptions médicales de grossesse, de mort in utero ou encore de disparition d'un enfant de quelques jours ou quelques semaines. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute. Au printemps 2021, vous aviez découvert l'histoire d'Estelle et Victor. Estelle et Victor, parisiens, la trentaine, ont décidé il y a quelques années d'avoir un enfant ensemble. Dans l'épisode 17 du podcast, un épisode en deux parties, le couple avait raconté ses difficultés pour devenir parents. Un chemin difficile et long, ponctué par des arrêts naturels de grossesse, par une grossesse extra-utérine. Un chemin difficile et long qui les a obligés à bifurquer vers un parcours de PMA, de procréation médicalement assistée. Doutes, difficultés, tristesse, combativité, il y a un an, c'est de tout ça dont on avait parlé, alors que tous les deux se préparaient quelques semaines plus tard à vivre une nouvelle étape, le transfert d'un embryon. Dans la deuxième partie de l'épisode, nous avions évoqué un projet photographique qui avait éclos en parallèle de ce parcours. Certaines personnes tiennent un carnet de bord, un carnet de dessin. Victor, lui, a décidé de prendre son appareil photo argentique pour documenter visuellement ce désir d'enfant. Intitulé « Cicatrice », ce projet, dont certains clichés ont été publiés dans le magazine Polka en 2020, vise à retracer par l'image les étapes qu'Estelle et lui ont vécues. L'attente, la vie intime, les rendez-vous médicaux. Un an après ce premier épisode, je les ai retrouvés en mars 2022 pour cet entretien, cette conversation que vous vous apprêtez à écouter. car des changements en l'espace d'un an, je peux vous garantir qu'il y en a eu dans leur vie. La PMA, la fin du projet photo, une petite Salomé, née en janvier dernier, et un livre sur l'infertilité, paru quasiment au même moment. Le 8 mars dernier, Estelle et Victor se sont même retrouvés sur la scène du Trianon à Paris pour évoquer ce long parcours à l'occasion du spectacle du podcast Bliss de Clémentine Gallet. Un spectacle durant lequel les photographies de Victor, les photographies du projet Cicatrice, ont été projetées devant des centaines de personnes. Bref, Estelle et Victor ont des choses à vous dire et je vous laisse écouter cet enregistrement à quatre voix car il se pourrait bien que vous entendiez parfois un petit bébé prénommé Salomé. Bonjour Estelle et Victor.
Bonjour.
Bonjour.
Alors je suis très heureuse de vous retrouver un an après notre premier épisode. On l'avait enregistré le 15 mars et aujourd'hui nous sommes le 22 mars, donc niveau timing on est quand même plutôt bien. C'est la première fois que je retrouve d'anciens et anciennes invités. Pour vous, les derniers mois, les dernières semaines ont été assez chargées, assez remplies. C'était un peu l'occasion de refaire un épisode ensemble. Il s'en est quand même passé pas mal de choses en un an.
Complètement.
Ah oui, là, oui.
Ça a été 2021-2022, ouais, ça a été assez chargé.
On a un début 2022 qui est assez sur les chapeaux de roue.
Ouais, sur les chapeaux de roue. Alors, du coup, pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter et revenir un peu sur le contexte du premier enregistrement pour les personnes qui ne vous connaîtraient pas?
Alors, donc moi j'ai 35 ans, je suis journaliste.
Moi j'ai 33 ans et je suis photographe et journaliste.
Et donc on a enregistré le premier épisode. Nous, on avait traversé deux fausses couches et une grossesse extra-utérine. Et ça faisait 3 ans qu'on essayait d'avoir un enfant, je crois, à ce moment-là. Mmh. Et ça faisait 1 an et demi que Victor photographiait notre parcours.
Et puis au moment de l'enregistrement, on avait terminé le cycle de FIB, je crois. Et on devait faire le premier transfert après.
Ouais, c'est ça. On devait faire le premier transfert d'embryon congelé. Premier transfert qui n'a pas marché. On a fait un deuxième transfert le mois suivant, au mois d'avril, qui a marché, en tout cas qui est resté.
Voilà.
Et qui a donné une petite fille qui est née au mois de janvier 2022.
Comment vous l'avez abordé, en fait, cette nouvelle phase, cette phase qui était inédite pour vous, les transferts?
Le premier transfert, je pense qu'on y croyait quand même. On y croyait quand même. Après, oui, on nous avait dit qu'un transfert sur 3 à peu près marchait. Donc, il y avait quand même la possibilité que ça marche pas. Mais enfin, on espérait que tout, voilà. Bon, globalement, évidemment, on a été très déçus, on a pleuré comme des madeleines. Ensuite, on a décidé, et je crois qu'on était d'accord tous les deux, sur le fait qu'on voulait refaire un transfert tout de suite, le mois suivant, qu'on voulait pas, qu'on avait trop attendu, que trop de mois étaient passés, qu'on voulait pas se dire, ah ben, on reprend 2 mois, on reprend machin. Et donc, on voulait réessayer tout de suite.
Le premier transfert, on essayait de se rassurer un maximum avec les chiffres, parce que au final, quand on est arrivé en FIV, on était relativement jeunes. Il y a beaucoup de couples qui arrivent en FIV à partir de 40-41 ans. Donc on se disait bon les taux sont pas très bons mais nous comme on est jeunes ça va être on va cartonner sur les taux. Bon bref. Et donc non, on a été assez déçus, enfin très déçus de premier échec. Et d'ailleurs c'est ce premier échec qui a donné lieu à la dernière photo du projet qui est le l'échographie que j'ai brûlée, parce que en fait comme c'était Covid, le temps du Covid, encore aujourd'hui, mais enfin voilà, à l'époque on faisait vraiment très attention, j'avais pas le droit d'être dans la salle au moment du transfert. D'habitude le conjoint, la conjointe peut venir accompagner, tenir la main, tout ça pendant le transfert, et là j'avais pas le droit, donc j'étais à l'extérieur. Et pour compenser ça, c'était le docteur qui avait imprimé une petite échographie
du transfert, en fait, de l'embryon qui est censé être installé.
Voilà, mais franchement pas grand-chose. Mais voilà, c'était le petit truc que je gardais dans mon portefeuille, en espérant que ça fonctionne. Et en fait, quand on a su que ça n'avait pas fonctionné, j'ai eu l'idée de faire brûler cette petite échographie. Si tu te souviens du premier épisode, c'était pour connecter avec ce qui s'était passé pour la première fausse couche. On avait effectivement brûlé des petits papiers à l'époque pour notre enfant qui n'était pas venu. Voilà, et c'était une photo que j'avais pas prise effectivement aussi à l'époque parce que le projet n'avait pas du tout commencé. Donc c'était un peu pour reconnecter avec ça. Et quand j'ai vu cette image développée, scannée, j'ai vraiment eu un moment d'arrêt où je me suis dit c'est terminé. Ce projet est terminé avec cette photo. Je sais pas où ça nous mènera, mais voilà, là maintenant il faut que c'est une sorte de point final à cette première étape du projet photo.
Du coup, je me permets de rebondir dès maintenant sur le projet photo. Du coup, l'an dernier, vous m'aviez dit que vous ne saviez pas à quel moment interviendrait la fin du projet, en fait. Est-ce que ce serait en cours de PMA, à la fin du parcours de PMA, si un jour Estelle est enceinte, si la grossesse va jusqu'au terme, est-ce que ce sera avec la naissance d'un enfant? Pour vous, la fin, elle était ouverte et il n'y avait rien de prédéterminé. Et donc là, tu me dis que finalement, le projet, il s'est terminé avant qu'Estelle soit enceinte. Là, pour le coup, la boucle, elle était bouclée pour vous.
Alors, moi, quand j'ai vu les photos, la photo, ça a été vraiment une évidence. Il faut aussi remettre un peu dans le contexte, c'est-à-dire que ça faisait un an et demi que je faisais des photos, qu'on faisait des photos, et que ce projet prenait trop de place, qu'on finissait par prendre trop de place. Il nous avait permis de prendre du recul, et puis là, ça prenait trop de place dans la tête. D'une part, parce que toute personne en PMA le sait, c'est quelque chose qui prend toute la tête quand on y est, et qu'en plus, le fait de travailler dessus, dans un premier temps, ça nous avait fait du bien, et plus tard, fin du projet, c'était bizarre que ça en soit un travail, quoi. Voilà, il y avait un trop-plein, une forme de trop-plein à ce moment-là. Donc c'était le bon moment, je pense, pour terminer ça. Et oui, effectivement, c'est arrivé un peu comme une évidence en voyant la photo. Après, ce qui était bien aussi et ce qui était important pour nous dans notre démarche, c'était que ce soit un travail qui ait une fin ouverte.
Oui, en fait, c'était plus simple aussi de terminer sans. Sans dire soit qu'on avait arrêté et qu'on n'avait pas d'enfant, soit dire voilà, on a un enfant. Enfin, il y avait quelque chose qui était aussi plus facile et plus évident pour nous à transmettre là-dedans.
Pour résumer, tu l'as bien dit tout à l'heure, ensemble, vous avez vécu plusieurs épreuves. Il y a eu 2 fausses couches, une grossesse extra-utérine, les stimulations, insémination artificielle, fécondation in vitro, du coup 2 transferts. Pour vous, c'était une 4e grossesse, en fait, qui a débuté avec le 2e transfert. Comment est-ce que vous avez envisagé les premiers jours, puis les premières semaines, les premiers mois? Comment vous les avez vécus?
Franchement, ça a été hyper compliqué. Bon, déjà parce qu'effectivement, c'était la 4e grossesse, donc on était loin de l'espèce d'état euphorique de « Ah, c'est formidable, on va avoir un enfant ». Effectivement, j'ai fait une prise de sang le jour où l'hôpital m'avait dit « Faites une prise de sang à telle date ». Je fais une prise de sang, j'étais en déplacement à Rennes. Donc, je l'ai fait dans un labo à Rennes et je prenais le TGV le soir pour rentrer à Paris. Et donc, j'arrivais genre à 22h ou quelque chose comme ça. Et donc, j'avais dit à Victor, j'aurai les résultats avant. Mais donc, si tu veux regarder, regarde. Mais moi, je vais pas regarder toute seule avant de prendre mon TGV. Enfin, ça va être trop compliqué. Mais à ce moment-là, c'est vrai que je me disais que ça avait pu marcher. J'étais plutôt dans l'optique. Quand même, c'est bizarre. Il se passe un truc bizarre. Je pense que ça a marché, mais on verra. Et donc, j'envoie à Victor le résultat du labo avec mon mot de passe pour se connecter, pour qu'il regarde s'il voulait regarder tout seul. Et donc, je rentre à l'appartement, quelque chose comme 22h30, et il m'avait pas envoyé de message ni rien. Et il me regarde avec une tête. Je me dis, bon, en fait, ça a pas marché. Il sait pas comment me le dire. Bon. Et donc, je m'assieds. Et il me dit alors voilà, si t'étais enceinte, tu serais enceinte de 2 semaines, non, je sais pas quoi. Et je lui dis oui. Il me dit t'es enceinte. Je fais ok, mais alors avec une tête vraiment genre c'est une catastrophe. Donc je lui ai dit tu veux qu'on ait un enfant ensemble ou et vraiment j'avais l'impression que le monde entier s'était abattu sur ses épaules tellement c'était la panique. Donc ça, c'était les résultats. Et ensuite, non, les premiers jours, on était dans un état... Enfin, les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, enfin, ça a été très... Il y a eu beaucoup de moments d'angoisse. Donc déjà, il y a eu pas mal d'échographies au premier trimestre pour vérifier que c'était pas une grossesse extra-utérine, pour vérifier que c'était bien placé, que ça évolue bien et tout.
Je me permets de te couper. En fait, du coup, tu t'es retrouvée avec notamment une échographie extrêmement précoce.
Ah oui. Oui, bah, je pense que j'ai fait une écho une semaine après ou quelque chose comme ça. Donc, il y avait quasiment rien à voir à part que la poche était au bon endroit, quoi. Donc, il y avait une micro-poche au bon endroit et ensuite, on a fait des échographies tous les 15 jours, je crois, jusqu'à l'écho du premier trimestre. Alors, heureusement, on l'a fait avec une super gynéco qui était hyper gentille et qui sentait bien que le niveau de stress était hyper élevé et qui nous a recommandé quelqu'un pour faire l'échographie du premier trimestre. Et alors là, je crois qu'on est arrivé dans le cabinet. Bon, moi, j'avais fait des cauchemars tous les jours précédents. Et on est arrivé, je pense qu'on ne respirait pas. On était en apnée. Donc, il nous prend, un médecin qu'on n'avait jamais vu. Il nous dit, alors voilà, bon, c'est votre première grossesse. Alors, je lui déballe tout le dossier médical. Il dit, OK. Et en fait, je pense qu'il a senti que nous, on était hyper fébriles. Donc, il a posé sa sonde échographique. Il a mis direct le son. Et donc, alors que j'avais prévu de pas regarder l'écran ni rien, en fait, j'ai vu un bébé apparaître. Et il a mis direct le son du rythme cardiaque en me disant « Ah, bon, bah voilà, une bonne activité cardiaque. » Et après, il a fait toutes ses mesures. Moi, je n'écoutais pas du tout. J'étais en train de pleurer pendant qu'il disait « Alors, le fémur, ta-na-na, le périmètre crânien, ta-ta-ta. » Et donc, on est sortis de là un peu rassurés. Mais en fait, on a été rassurés que quelques jours en se disant « Bon, bah, on a passé l'écho du premier trimestre. » Mais en fait, on ne sait jamais, il peut encore se passer mille trucs, quoi. Je pense qu'on a commencé à bien le vivre et en tout cas à se projeter dans la grossesse à partir de l'écho du deuxième trimestre. Donc à 5 mois. Quoi.
Le moment où elle a bougé aussi.
Oui, il y a eu le moment où elle a commencé à bouger, ouais. Ce qui a changé pas mal les choses. Mais après, comme au début, elle bouge pas tout le temps. Enfin, on la sent pas tout le temps bouger. Ça crée à la fois un truc de ah c'est cool, elle bouge. Et, ah mais ça fait un moment qu'elle a pas bougé. Bon. Donc non, on n'était pas. Voilà. Je pense qu'à partir de 6 mois, on était au top. Mais il y a eu 6 mois de on sait jamais, il peut se passer tellement de choses. Et en vrai, je pense qu'on a commencé, j'ai commencé à vraiment réaliser quand elle est née, quoi. Quand elle est née et qu'on nous a donné un bébé, quoi. Et que là, je me suis dit, ah ouais, vraiment, il y a un enfant, elle respire, tout va bien, elle est tout comme il faut, voilà. Avant, il y avait toujours une petite angoisse.
Et du coup, pour revenir à toutes les semaines qui ont précédé l'échographie du premier trimestre, d'avoir des échos tous les 15 jours, pour certaines personnes, c'est vraiment le minimum pour pouvoir vivre les choses à peu près sereinement. D'autres personnes vont trouver que c'est trop. Toi, comment tu vivais les choses, en fait?
Moi, je me projetais de chaque jour était une nouvelle journée passée, quoi. Et on était vraiment là-dessus. Et chaque rendez-vous d'échographie était un nouveau cap à passer. De, OK, on a rendez-vous à telle date. Ça y est, telle date, c'est fait. On a rendez-vous à telle date. Ça y est, c'est passé. Et où, non, je pense que moi, j'avais besoin de ça, hein, parce que je me serais pas vue en faire moins. Mais en fait, pour tout te dire, j'ai commencé à prendre du poids, par exemple, à partir de 4 mois de grossesse. Donc, tout le premier trimestre, ça se voyait pas du tout. J'avais pas du tout de poids en plus. Enfin, mon seul signe de grossesse, c'est que je faisais des insomnies et que j'étais angoissée, quoi. Donc, c'était, pour moi nécessaire. Et voilà, ça nous permettait de cocher des cases et nous dire c'est bon, on avance. Chaque jour est passé, chaque semaine est passée. Voilà. D'avoir tout ça et de se rapprocher de l'écho du premier trimestre.
Ouais, une manière de te rappeler que t'es bien enceinte aussi, parce que c'est vrai que le premier trimestre est ultra abstrait, en fait, surtout quand on n'a pas de symptômes énormes ou que de l'extérieur, personne peut deviner qu'on est enceinte.
Et puis moi, du coup, je n'osais pas le dire. On l'a dit à plein de gens qui étaient très proches de nous, mais je l'ai pas dit aux gens que je connaissais moyennement, parce que je me disais, si je leur dis que je suis enceinte, en fait, si ça se trouve, dans 15 jours, je vais leur dire que je le suis plus, quoi. Il y avait toujours cette pensée-là. Donc, c'est vrai que c'était pas... Personne au travail le savait, par exemple, des trucs comme ça, quoi. Donc, j'avais du mal à réaliser. C'était vraiment... c'était une période un peu floue, quoi. Et je pense que Victor était vraiment dans le même état d'esprit, quoi.
Oui, que comme l'a raconté Estelle, effectivement, le jour où son test positif est arrivé, j'avoue que la première chose... J'ai pas du tout réussi à me réjouir du fait qu'elle était enceinte. La première chose que j'ai vue, c'était effectivement les prochaines semaines qui allaient arriver, où on allait être dans l'angoisse tous les jours, et ça n'a pas loupé. Donc ouais, c'était très abstrait. Je me souviens d'un truc très, disons qu'on naviguait à vue, quoi. Et on naviguait à vue. Chaque jour était une victoire, où on se disait bon, il y a pas de signe, il y a pas de truc. Enfin, il y avait toujours ce truc de checker, parce que bon, pour en tant que conjoint, en tant qu'homme, je vivais pas la chose dans mon corps. Donc j'étais là, j'essayais de lui poser des questions sans lui poser des questions pour pas non plus mettre la pression, pour pas non plus mettre trop de stress. Donc j'étais là, ça va, il y a pas de problème, il y a pas de signe, j'essayais de comprendre sans être non plus trop angoissé, voilà, pour pas transmettre trop de choses. Et on a vraiment navigué à vue, quoi, pendant ces quelques semaines. Et chaque échographie, comme tu racontais, toutes les 15 jours, c'était aussi une nouvelle victoire. On s'était dit, bon, là, c'est bon, ça fonctionne, il est toujours là. Et je me suis retrouvé très rapidement, d'ailleurs, dans ce rôle dont on parle aussi en PMA, son rôle des dents, dans le sens où je la rassurais un maximum à chaque fois. Et après, en deuxième temps, j'angoissais en deuxième temps.
Est-ce que vos proches, à qui vous aviez parlé de cette grossesse, parce que... voilà, parfois c'est aussi une manière d'être soutenu. Ils ont compris justement que pour vous, il y avait beaucoup d'ambivalence dans le vécu, en tout cas du début de cette grossesse.
Je sais pas s'ils l'ont compris, mais en tout cas on leur a dit. Oui, je crois quand même si, parce que j'en ai beaucoup parlé avec mes parents notamment, avec ma mère, avec mes proches et avec mes amis, où à chaque fois je leur disais bon, c'est-à-dire que comme à chaque fois je leur disais, Estelle est toujours enceinte, mais d'une manière très neutre, enfin dans le sens où je pas d'enthousiasme, voilà, très factuel. Aujourd'hui, là, il est 10h du matin, Estelle est enceinte, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, ça marche. Et donc tout le monde était là, tout le monde m'a dit, bon, aujourd'hui ça va, très bien, on croise les doigts, on espère toujours, ça marche bien, voilà. Donc il y a eu un côté un peu soutien comme ça, dans tous les sens, de, ok, on se porte jusqu'à le jour prochain, jusqu'à la semaine prochaine, jusqu'à l'écho prochaine. Et puis voilà, on y croit, quoi.
Non, je pense qu'ils ont quand même saisi le niveau d'angoisse parce que on a fait effectivement aucune annonce où on était réjouis. Enfin, on a fait vraiment des annonces factuelles. Voilà, au fait, je suis enceinte. Ok. Et vous êtes contents? Oui, on est très contents. Mais il y avait presque un malaise où les gens étaient plus heureux que nous, de cette grossesse. Et que nous, moi, plus les gens se réjouissaient, plus ça me mettait mal à l'aise en me disant, mais arrêtez d'être si réjouis. On verra bien ce qui se passe, quoi.
Oui, c'est vrai, je me souviens de ça. Tu étais souvent, tu t'équilibrais. Plus la personne en face était enthousiaste, plus toi, t'étais.
Mais oui, parce que ça donne justement des surréactions. Les gens sont hyper contents pour nous. Il y a des gens qui ont pleuré. Enfin, un jour, Victor est rentré en me disant, j'ai annoncé à telle amie et elle a pleuré. Elle est très heureuse pour nous, mais ça m'a mis hyper malaise. Enfin, moi-même, j'avais pas pleuré, en tout cas pas pleuré de joie, quoi. Donc, je me suis dit, là, mais les gens se projettent trop. Enfin.
Oui, et puis parfois, ils se projettent et nous, ça nous paralyse un peu parce qu'on n'ose pas se projeter autant. Donc, on se dit, mais pourquoi les autres se projettent plus que nous-mêmes alors que c'est notre grossesse? Enfin, ça crée des décalages qui sont parfois assez compliqués à gérer, en fait.
Bah, complètement. Et bah, écoute, j'ai été voir la psy de la maternité à la fin du 4e mois, je crois. Et justement, je lui ai dit ça. Je lui ai dit que j'arrivais pas à gérer, que je comprenais pas pourquoi les gens se projetaient autant alors que moi, j'arrivais pas à me projeter. Et voilà, et c'est, ça faisait partie des trucs où je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens sont, voilà, arrivent à tant se réjouir alors que nous, on sait pas du tout ce qui va se passer? C'était un peu bizarre.
Tu me disais, finalement, t'as réalisé que t'avais un bébé qu'à partir du moment où Salomé est né. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur la fin du second trimestre et puis tout le troisième trimestre? Là, ça devenait plus concret pour vous?
Ça devenait plus concret. Moi, j'ai commencé à bien aimer être enceinte à partir du 6e mois. J'ai trouvé ça cool. Elle bougeait beaucoup. Je me sentais bien. On était contents. On commençait vraiment à se projeter. On savait que c'était une fille. Il y avait quelque chose de plus agréable. Et puis tout le monde voyait que j'étais enceinte. Donc, enfin, voilà, c'était plus facile à vivre. Il n'y a eu aucun souci. Et en fait, pour tout te dire, elle est née et j'ai eu mon frère au téléphone. Parce qu'effectivement, il n'y avait toujours pas de visite à la maternité à cause du Covid. Et on lui avait envoyé des photos. Enfin, voilà. Et je lui dis, c'est un bébé, quoi. Elle est là. Et il me dit, oui, non, mais en fait, je crois que tout le monde avait réalisé qu'il y aurait un bébé sauf toi, quoi. Je lui dis, oui, peut-être. Peut-être qu'effectivement, voilà. Mais par exemple, on a quasiment rien acheté, pour bébé. On a commencé à aménager la chambre le dernier mois. Enfin, voilà. Vraiment, en se disant, bon, en fait, peut-être que pour de vrai, un bébé, peut-être qu'il faut quand même qu'on prépare quelque chose parce que là, on a l'air de rien préparer du tout, de pas avoir envie qu'elle arrive.
Je crois qu'on a acheté effectivement à partir du 7e, 8e mois, quoi.
Mais bon, voilà, ça faisait partie de la difficulté à se projeter réellement Donc, il y aura une fin à cette grossesse et à la fin, il y aura un bébé.
Donc, effectivement, un petit bébé qu'on entend un petit peu là.
Oui.
Alors, du coup, Salomé, elle est née donc en janvier. Et quelques semaines plus tard, il y a un autre projet qui a vu le jour, si on peut le dire comme ça. C'est le livre que vous avez coécrit avec Pauline Pélissier. Donc ce livre, c'est Génération infertile, avec un point d'interrogation, de la détresse au business, enquête sur un tabou. Pauline, elle est journaliste comme vous, elle est passée par la PMA comme vous. Vous aviez votre projet photo qui s'est arrêté, mais à quel moment vous êtes dit, bah, la photo, en fait, pour parler notamment de la PMA et des difficultés à devenir parent, ça suffit plus?
Bonne question. En fait, ça s'est fait à... Ce qui est rigolo, c'est que ça s'est fait de manière assez naturelle. C'est-à-dire que c'était, tu sais, à la suite de la publication dans Polka, du parti du projet dans Polka. J'avais posté sur les réseaux sociaux et il y a pas mal de gens qui m'ont contacté à ce moment-là pour soit me féliciter, soit enfin m'encourager, soit me partager leurs histoires. Et Pauline faisait partie de ces gens-là. Elle m'a raconté son histoire. Elle était dans la même école de journalisme, mais une année au-dessus de moi. Donc on se connaissait, mais pas plus que ça. Et dans nos échanges, à un moment, elle me dit, mais moi, je suis passé par là aussi. Et à l'époque, je trouvais aucune information sur rien. Et j'avais eu l'idée d'écrire un livre. Et j'avais commencé à construire un synopsis assez conséquent d'un livre d'enquête. Donc l'idée vient vraiment d'elle sur l'infertilité. Alors au départ, c'était quelque chose, je crois, d'assez orienté sur les causes de l'infertilité qu'on a après remanié ensemble. Mais quand elle me dit ça, je dis bah ok, viens, on en parle, parce que elle s'était arrêtée elle une fois qu'elle était tombée enceinte. Elle était passée à autre chose, quoi. Elle était passée à autre chose, mais le fait de voir les photos, de se replonger dedans, elle s'est dit bon, il y a quelque chose de pas réglé là-dedans. Il faut que j'aille au bout de ce truc. Et voilà. Et donc on s'est vu ici dans ce salon et on a discuté. Et puis on a dit bah allez, on tente l'aventure tous les trois.
Mais c'est vrai qu'on était confinés pour la je sais pas combienième fois. Et donc elle est venue chez nous parce que les bars étaient fermés. Et donc je me suis retrouvée un peu dans le rendez-vous, ce qui n'était pas forcément prévu au départ. Et on en a discuté tous les trois, on a discuté du plan, de ce qui serait intéressant, de ce qu'on voulait construire, de à quoi on voulait que ça ressemble, etc. Et ça a bien matché. Essayons de bosser le synopsis, de faire vraiment ce qu'on aimerait, tout ce qu'on aimerait y mettre et comment on aimerait le faire. Et puis on le propose à des maisons d'édition. Et ça, c'était en début d'année 2021. Voilà, notamment, on savait qu'on voulait beaucoup de témoignages, et pas le nôtre, mais des témoignages de couples qui vivaient pas à Paris, qui vivaient en zone rurale, des témoignages de personnes qui n'avaient pas les mêmes moyens économiques non plus, enfin qu'on parle des inégalités sociales, des inégalités raciales, des inégalités géographiques, qu'on puisse dire bah, comment ça se passe une PMA à Agen ou une PMA à Paris, suivant l'âge qu'on a, suivant la pathologie. Enfin, on avait défini plein de trucs qu'on voulait.
Et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'au départ, il y avait ce côté, on veut chercher les causes de l'infertilité. Mais c'est vrai que rien qu'en faisant des petites recherches au départ, on arrive à comprendre un petit peu, mais il y a plein de choses qu'on ne sait pas, et ça, on l'explique un peu dans le livre. Et donc, c'était très vite, on s'est dit, ça sert à rien de faire un livre que là-dessus, parce qu'on va très vite arriver sur des réponses qui n'en sont pas, quoi. Sur des choses, ça on l'ignore, ça on n'est pas sûr, ça on n'est pas certain. Donc, il nous semblait vraiment, avec Pauline et avec Estelle, que le cœur du travail, c'était plus sur les inégalités dans la PMA, comment est-ce qu'on vivait la PMA chacun, comment est-ce qu'on se la racontait, comment est-ce qu'on la racontait à d'autres. Voilà, c'était vraiment ça le cœur qu'on voulait mettre dans l'enquête.
Oui, et puis on était sûr que ça concernait beaucoup de gens aussi, quoi, et que tout ça concernait, et que même si ça touchait pas forcément les couples, ça touchait leur entourage. Et en fait, tout ce que nous, on avait vécu avec notre entourage, on était prêts à leur dire, bah, lisez ça, vous allez voir, vous connaissez d'autres gens et ça va vous apprendre plein de trucs. Et du coup, voilà, ça, c'était début 2021. On a travaillé le synopsis et on l'a proposé à plusieurs maisons d'édition. On a eu un retour positif d'autrement. Et on a eu un premier contact avec notre éditrice qui nous a dit, bah, ça m'intéresse. Banco, votre synopsis, il est bien, il y a plein de choses, c'est super, vous sentez de le faire, vous êtes prêts? On a dit, bah oui, on est prêts, bon, bah super. Et du coup, on a signé le contrat début mai, et on devait rendre le livre fin décembre, enfin le 31 décembre. Et on a signé le contrat, je crois que je savais depuis 5 jours que j'étais enceinte.
Ça doit être une expérience assez spéciale quand même d'écrire un livre sur la PMA et d'attendre un bébé.
Complètement. Après, quand on a discuté du projet et quand on a commencé à le proposer, voilà, on était encore, on était en PMA, on n'avait pas encore fait la FIV, on était, voilà, on savait un peu ce qui nous attendait, mais on savait pas du tout ce qui allait se passer en parallèle. Voilà, donc il y a quand même un moment, au bout de plusieurs semaines, où on a dit à Pauline, donc notre comparse, que j'étais enceinte et que voilà, on allait réussir à faire le travail jusqu'au bout, mais que la naissance était prévue 3 semaines après le rendu du livre. Bon, mais elle nous a dit c'est parfait, si vous le sentez, on y va. Et donc on a fait ça. En fait, là où on s'est dit que il y avait un, là où il y avait un truc un peu étrange, c'est du coup quand on a fait beaucoup de témoignages pour le livre. Et on avait fait un questionnaire qu'on a envoyé à beaucoup de gens et on a eu près de 500 réponses et ensuite on en a rappelé certains. Et en fait, c'était avoir les gens au téléphone, que ce soit les femmes ou les hommes, et qui nous racontaient éventuellement leurs échecs et là où ils en étaient, et ce qui avait été dur, et ce qui leur avait fait du bien, enfin tout un tas de choses. Alors que nous, on était aussi en parallèle un peu là-dedans, enfin même si on n'y était plus vraiment. Mais voilà, on pouvait y retourner, enfin... Tout était un peu fébrile. Ça, c'était assez étrange. Et notamment, par exemple, les femmes ou les couples où ça n'avait pas marché, où ils avaient arrêté. Moi, j'en ai eu une au téléphone où elle était super mal. Ça faisait quelques mois qu'elle savait que la PMA c'était terminée et que de toute façon, en Espagne, ils ne la prendraient pas non plus. Enfin, qu'il n'y avait plus d'options, en fait. Et qu'elle allait avoir 40 ans. Et là, je me suis dit, ah, c'est quand même, on vit quand même des trucs. Hyper dur et on pourrait être exactement dans la même situation qu'elle. Et moi j'étais enceinte de je sais pas quoi 4-5 mois à ce moment-là quoi. Il y avait un parallèle un peu étrange là-dedans. Après des fois ça a été marrant parce qu'il y a des hommes ou des femmes qu'on a eu au téléphone et qui étaient en cours de grossesse un peu comme nous, enfin. En plus dans les témoignages, si tu veux, nous moi j'ai toujours été plus Victor et Pauline, si tu veux, on était assez honnêtes au début de la conversation en leur disant pourquoi on faisait le livre, parce qu'on demande quand même aux gens de se livrer sur leur intimité, leurs plus grandes difficultés. Nous on leur faisait parler de leur rapport avec leur famille, leurs amis, leurs difficultés au travail, leurs difficultés dans leur vie de couple. À un moment donc je commençais par dire voilà, nous aussi on est passé par la PMA. Moi aussi, j'ai vécu des fausses couches. Enfin, voilà, quand les femmes me disaient ça, il y avait un côté aussi, vous pouvez nous confier les choses parce qu'on les comprend et qu'on les a vécues, même si on n'a jamais vécu exactement la même chose. Et donc, il y en a qui m'ont demandé où est-ce qu'on en était. Et là, surtout quand c'était des couples où je savais qu'ils étaient dans une phase un peu difficile, après, j'ai toujours dit la vérité, j'ai toujours dit à ce moment-là que j'étais enceinte et que voilà, mais c'est vrai que il y avait un côté un peu culpabilité de ah ben on est en PMA mais on n'y est plus vraiment parce que voilà maintenant on est dans l'autre côté, dans le côté ça a marché et on suit la grossesse quoi. Mais après c'était aussi hyper intéressant parce que en fait on a répondu dans le livre à toutes les questions auxquelles nous on s'était posé et
c'est comme voir un psy spécialisé en PMA ou pas quoi. C'est-à-dire que tu sais ou parler avec quelqu'un qui est passé en PMA ou pas quoi. C'est que il y a des choses qu'on n'a pas besoin de raconter qui sont évidentes et il y a d'autres choses voilà effectivement comme tu disais des zones d'ombre sur lesquelles on peut plus facilement discuter qu'avec quelqu'un qui connaîtrait pas le parcours, qui connaîtrait pas les échecs, qui connaîtrait pas tout ça. Donc ouais, ça a été vraiment une force en tout cas pour construire le livre d'être passé par là
et en fait quand même ça fait du bien d'en parler quoi. Ça fait du bien d'en parler, on n'est pas seul et on est encore moins seul si on en parle. Donc je sais que moi ça m'avait fait beaucoup de bien d'entendre d'autres gens en parler de leur fausse couche, même si c'est terrible, je le souhaite à personne, mais en tout cas de se dire je suis pas seule au monde. Et c'est pareil un peu pour la PMA, enfin moi quand j'ai découvert que Michelle Obama avait fait une fille pour avoir ses filles, alors c'est ridicule hein, mais je me suis sentie un peu comme Michelle Obama, genre en fait ça va, Michelle Obama et moi on est sur le même plan, quoi. Donc, il y a des choses comme ça où je me dis, c'est justement essayer de lever le tabou, ça fait du bien à tout le monde. Et puis, ça lève le tabou dans le couple aussi, dans l'intime, dans la famille, dans la société, pouvoir dire quelque chose au travail, à la machine à café. Alors, évidemment, moi, quand j'ai dit, par exemple, que je travaillais sur ce livre, des gens qui n'étaient pas au courant de notre vie m'ont dit, ah, mais pourquoi enfin, ça t'est venu comment, ce thème? Et donc, j'ai bien été obligée de dire, bah, en fait, c'est parce que nous-mêmes, on est passé par là. Enfin, j'ai fait plusieurs fausses couches, tout ça. Et c'est vrai que c'est un peu bizarre, parce qu'on se retrouve à dévoiler tout de suite son intimité avec des gens avec lesquels on n'est pas forcément intime. Mais en général, la réponse était plutôt bienveillante et positive. Et puis souvent, les gens me disaient « Ah bah oui, bah ma sœur, elle est en Espagne. Ah bah oui, machin. » Enfin voilà. En fait, il suffit de dire quelque chose pour que la conversation s'enclenche et que les gens ont toujours quelque chose à raconter qu'ils n'ont jamais dit, quoi.
Il y a quelque chose que vous disiez l'an dernier dans l'épisode qui m'avait beaucoup marqué, et je sais que j'avais eu des retours par rapport à cet extrait-là. C'est que, en général, on parle souvent de la PMA, ou en tout cas, on donne la parole aux gens qui vivent ou qui ont vécu une PMA, souvent lorsqu'il y a un bébé au bout du parcours, et on donne rarement la parole aux gens qui sont en cours de PMA ou qui n'ont pas eu d'enfants et qui ont dû abandonner leur projet parental. Donc ça, c'est vraiment un moment qui m'avait marqué dans l'épisode l'an dernier, dans l'enregistrement. Et dans ce livre, j'ai un peu le sentiment que c'est pas l'issue du parcours qui vous intéresse le plus, même si vous parlez un petit peu des personnes qui ont dû renoncer à la PMA, mais souvent vous l'introduisez aussi, voilà, ça va être une personne qui parle et vous rappelez un petit peu son parcours, s'il y a eu des enfants, d'éventuelles fausses couches, un deuil, ou voilà, s'ils ont arrêté. Finalement, c'est le parcours en tant que tel qui vous importait le plus, davantage d'ailleurs que l'issue.
Oui, c'est le parcours qui te fait vivre vraiment comme si t'étais dans une machine à laver, quoi. Et autant une grossesse, ça dure 9 mois, autant un parcours PMA, tu sais pas combien de temps ça dure. Tu t'engages dans quelque chose qui peut durer 3 mois, si tout se passe comme sur des roulettes, comme des années. Et c'est des années un peu de zone grise, dont justement on parle pas, et qui peuvent et qui sont un tourbillon, quoi, et ou des montagnes russes, où il y a des moments où on arrive à faire la part des choses et tout va bien, la vie professionnelle ça va, la vie familiale ça va, on arrive à trouver autre chose, et où en même temps il y a toujours ce projet qui est en fond derrière. Et effectivement, on trouvait ça plus important de parler de ces années-là, enfin en tout cas de ce temps et de cette zone grise de la PMA. On sait pour combien de temps, enfin on sait quand est-ce qu'on y rentre, on sait pas si on combien de temps on mettra avant d'en sortir, que à la fin il y a eu un enfant, quoi. Parce qu'en fait, même si aujourd'hui nous on a eu un enfant, ça n'efface rien du fait qu'on a passé 3 ans un peu à se prendre des claques et à y penser. Et quelque part, les 9 mois de grossesse et l'enfant après, c'était hyper facile, quoi.
C'est vrai que pour la construction du livre, c'était très important pour nous d'avoir des situations très différentes, pour montrer aussi l'éventail des situations dans lesquelles on peut être ou avoir été en PMA, que ça concerne vraiment plein de gens très divers, de tous horizons et de toutes histoires différentes. Mais ça a été, c'est vrai que c'était, je pense que l'un des trucs qui a été le plus compliqué, à part avoir des hommes, parce que c'était compliqué d'avoir des hommes, ça a été d'avoir des personnes qui, comme l'a dit Estelle tout à l'heure, qui sont sorties du parcours PMA sans avoir d'enfants.
Cette difficulté, en fait, de recueillir la parole de celles et ceux qui ont arrêté, ça, c'est quelque chose que vous l'avez vraiment ressenti.
Ah ouais.
Oui, parce qu'il y a un côté, et puis je pense que peut-être que c'est des couples qui ont besoin de tourner la page, mais du coup, qui vraiment tournent la page de, on va plus en parler, enfin, la PMA c'est terminé, le projet d'enfant c'est terminé, et on veut pas en parler, quoi. Mmh. Donc c'est vrai que ça a été très dur. Tout comme contacter des couples qui s'étaient séparés, alors on a réussi quand même à en avoir, parce qu'en fait c'est la réalité, mais comme les couples dans la vie, et là peut-être c'est exacerbé par le parcours PMA, c'est-à-dire qu'à un moment le couple ne résiste pas forcément à tout ça, et c'était important aussi pour nous de les avoir.
Ouais. Non, mais ça c'était vraiment important d'avoir tous ces trucs différents et d'avoir des comme nous à l'époque, donc d'avoir des gens qui sont encore en parcours PMA. Et d'ailleurs, j'en parle souvent, mais le témoignage qui ouvre le livre après la traduction, donc le témoignage d'Hélène, c'est une personne qui est toujours en parcours aujourd'hui. Et je me souviens, en tout début d'année, en fait, on se donne des nouvelles régulièrement, elle et une autre personne, on se donne des nouvelles régulièrement, elle me dit un petit peu où est-ce qu'elle en est, parce que là, ça fait plusieurs années qu'elle est dedans, elle est dans les derniers essais, elle sait pas du tout si ça va fonctionner et tout ça, donc elle est déjà dans un processus de deuil potentiel de son projet d'enfant. Et je me souviens, donc en tout début d'année, là, donc nous, on était un peu dans l'euphorie de la naissance de Salomé, de la naissance du livre. Il y avait un peu tout ça qui se mélangeait, c'était un peu dingue. Et, Et il y a Hélène qui m'écrit et qui me dit, et qui me raconte sa situation, qui me dit, bah voilà, là, ça n'a encore pas marché, on est encore en train d'attendre, voilà, c'est compliqué, on croise les doigts, mais on n'y croit plus tellement et tout ça. Et j'ai tout de suite transféré ce mail à Estelle et Pauline pour leur dire, voilà, il faut pas oublier quand même que même si nous, on est dans une situation un peu d'euphorie, parce que c'est un peu la folie, toutes ces naissances, il faut jamais oublier ces gens-là. Jamais oublier ces gens qui sont toujours dans le parcours, qui sont toujours dans l'indécision, voilà, qui vont devoir tourner la page, quoi, qui vont devoir tourner la page de tout ça. Et c'est aussi leur parole qu'on porte.
La PMA, on le sait, c'est un parcours qui est ultra médicalisé. Et d'ailleurs, souvent, dans les prises en charge des couples et surtout des femmes, c'est le médical qui prime et pas toujours la dimension humaine. Vous, dans le livre, en fait, vous mettez vraiment beaucoup, beaucoup l'accent, je trouve, sur la dimension humaine, sur le vécu, sur comment on en parle, sur les inégalités. T'en as un petit peu parlé, Estelle, au début, mais les inégalités de genre, de race, les inégalités territoriales, les inégalités économiques qui sont parfois criantes. Recentrer les choses sur l'humain, c'était assez essentiel pour vous, surtout vous qui aviez vécu des protocoles ultra médicalisés.
Bah oui, complètement. Et en fait, moi, je crois que je le dis dans l'épisode qu'on avait fait, ce que j'ai préféré dans la PMA, parce que je vais me dire c'est comme ça, mais en tout cas, ce qui m'a aidé à tenir, c'est clairement la psy de l'hôpital.
C'était la première fois que tu voyais une psy alors que tu avais vécu une fausse couche, une grossesse extra-utérine, je m'en souviens très bien. Tu disais, il a fallu que j'arrive en PMA pour qu'on me propose de voir une psy.
Ben voilà. Et ben en fait, c'est vraiment elle, c'est la seule personne à laquelle je me suis attachée, entre guillemets. C'est-à-dire que vraiment, il y a... ça manque d'humanité, l'hôpital de façon générale, ça manque de moyens, ça manque de plein de choses, mais du coup, il y a vraiment un manque d'humanité, alors que ce qu'on vit, c'est pour avoir un enfant, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour traiter une maladie non plus, enfin, on est là parce qu'il y a un désir de couple, etc. Et donc, c'est vrai que nous, on voulait recentrer ça là-dessus, pas parler de protocole, pas parler de dosage, d'œstrogène, de progestérone, de je sais pas quoi, mais sur, en fait, pourquoi on fait tout ça, quoi.
Non, mais c'est sur le manque d'humanité, il y a clairement un manque, je sais pas, de formation, de temps, parce qu'on sait que c'est les hôpitaux. Nous, on est restés dans le public tout le long de notre parcours. On a eu des témoignages de gens dans le privé qui étaient mieux entourés, mais bon, il faut mettre la main à la poche, quoi.
Oui, et puis en plus, ça veut pas dire que tout le privé est formidable non plus. Enfin, oui, c'est toujours une question de sur qui tu tombes.
Exactement.
Oui, non, oui. Mais il y a des façons de dire les choses. Enfin,
oui, il y a pas mal de soignants, j'ai l'impression, de médecins qui se sentent, je sais pas, une sorte de devoir être cash, je sais pas, ou qui veulent absolument se mettre à distance des patients avec lesquels ils doivent traiter. J'arrive pas trop à analyser ça, il faudrait leur demander, il faudrait faire une grande enquête sur les soignants et les médecins et là-dessus. Et juste pour parler du point de vue d'un homme, là-dessus, sur le parcours PMA, il y a vraiment tout à faire, quoi. Enfin, c'est assez fou parce que, alors, on essaye de l'expliquer un peu dans le livre, mais il y a des racines qui sont du fait que l'homme est rarement présent pour tout ce qui est des examens de santé sexuelle, que l'homme est rarement présent pour parler, lui, de son appareil génital, pour lui parler de ses capacités reproductives et tout ça, et que les soignants eux-mêmes n'ont pas l'habitude de voir les hommes dans ce genre de secteur. Et donc quand un homme arrive avec sa femme, ça change un petit peu, mais vraiment tout doucement, mais quand un homme arrive avec sa femme, enfin, sa compagne, bref, pour un parcours enfant, souvent les soignants savent pas quoi faire de l'homme, quoi. Alors moi, je me suis incrusté à peu près tous les rendez-vous, pas tous, hein, mais à peu près tous, parce que justement j'avais l'excuse de la photo et tout, mais c'était fascinant à quel point on pouvait passer 30 minutes à avec une spécialiste, que cette personne ne m'adresse pas la parole. Alors j'étais là, dans la pièce, tu vois. Donc j'imagine très bien plein d'hommes, alors on en parle dans le livre, mais des hommes qui arrivent là, qui découvrent, parce que justement, comme moi, ils n'ont jamais consulté pour leur santé sexuelle, qui découvrent à 35-40 ans qu'ils sont soit infertiles, soit carrément stériles.
Vous parlez d'horloge biologique aussi pour les hommes.
Ouais, ouais. Tout à fait, ça c'est un truc qu'on a découvert aussi. Enfin, peut-être qu'on savait vaguement, mais on se disait peut-être après 60 ou quoi. Mais non, à partir de 35 ans, il y a déjà une baisse de la fertilité chez les hommes. Donc ouais, j'imagine des gars qui déboulent là-dedans, qui n'ont jamais, enfin, qui sont complètement extérieurs au monde médical, et on leur dit, vous ne servez à rien, grosso modo, enfin bon, c'est très violent. C'est très violent. Alors, on reste sur le du point de vue de la femme, c'est la femme qui vit la chose de manière la plus difficile. Hein, c'est tout sur son corps et tout ça. Mais on est sans mauvais jeu de mots, mais l'homme dans le parcours PMA est complètement impuissant et c'est ça se ressent à tous les étages.
Pour extrapoler un petit peu, là, forcément, Victor, t'es un homme, et lorsque vous avez publié votre livre, bon, la PMA ouverte à toutes, c'est encore presque une virtualité en France pour l'instant. On voit bien à quel point c'est difficile de mettre ça en place, mais finalement, ça pose la question de la posture du coparent et comment on s'adresse au coparent, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme. Comment on s'adresse au couple quand il s'agit d'un projet de couple, et pas seulement le projet d'une personne?
Mais encore, si tu veux, là, on te dit le parcours PMA, mais globalement, c'est ce qu'on a vécu aussi à l'hôpital pour les fausses couches ou pour la grossesse extra-utérine, en fait. On s'adresse quand même à la femme. Et là, pareil, ça manque un peu d'humanité, quoi. Et après, bon, voilà, on a croisé autant de soignants géniaux que de soignants problématiques dans tous ces rendez-vous et tous ces passages aux urgences, quoi. Donc, il n'y a pas de généralité non plus. Et après, ce qui s'est passé pendant la grossesse, quand même, c'est qu'il y a eu un petit truc, comme on avait un dossier assez épais, avec plusieurs grossesses, on est quand même tombé parfois, bah déjà sur le médecin qui nous a fait les échographies du premier et du deuxième trimestre, qui du coup, je pense, s'est adressé à nous un peu différemment que sur un couple qui arrive pour une première grossesse, parce qu'il a senti que notre niveau d'angoisse était beaucoup plus élevé. Et pareil, j'ai eu quelques sages-femmes aussi qui étaient un peu plus, ok, je sens que vous êtes un peu plus fébrile, qu'une femme lambda, donc on va parler un peu plus, ou je vais un peu plus vous montrer des choses, enfin voilà. Il y a eu quand même un petit côté agréable de, on se sent un peu plus écouté ou un peu plus pris en charge du fait de notre dossier médical.
Juste pour revenir sur le problème avec les soignants, alors je veux pas du tout paraître comme étant le male savior, je sais pas quoi, enfin tu sais, l'homme qui sauve les femmes, mais en fait, quand on a eu les témoignages, quand on a rappelé tous les gens qu'on a rappelés, on a dû en rappeler une cinquantaine ou une soixantaine, on passait à chaque fois une heure et demie au téléphone avec chacune des personnes, hein, c'était réparti. Et à un moment, je m'adresse à Estelle et Pauline et on faisait un point et je leur dis, bon, là, je sais pas, j'ai eu 20 personnes au téléphone, c'est fou. À chaque fois, les femmes me disent, à chaque fois, à chaque moment, bah, il y a ce gynécologue, je suis pas allé le voir, il m'a dit tel truc, il m'a fait telle chose, ce soignant-là m'a fait ça et tout ça, et bon, j'ai changé et tout. J'ai dit, c'est quand même fou, à quel point, toutes les femmes passent par là, quoi. Et elles m'ont toutes les deux regardé en disant, bah, ouais, enfin.
Passe par des violences gynécologiques.
Voilà. Il y a le truc de, bah oui, enfin, c'est normal, les violences. Enfin, il y avait un truc, c'est normal, les violences gynécologiques. Alors, j'exagère totalement, c'est pas du tout normal.
Non, mais disons que, oui, plus ce côté, bah oui, c'est courant, ça existe, et c'est comme le harcèlement de rue, ça concerne toutes les femmes, en fait.
C'est exactement. Il y a un parallèle tout à fait évident avec ça. Donc, moi, je les ai regardés avec des yeux ronds, quoi, mais je leur ai dit, mais il faut qu'on en parle. Enfin, faut que ce soit un truc à part dans le livre sur les violences gynécologiques des personnes en PMA. Et après, évidemment, elles étaient d'accord et on l'a fait et tout ça. Mais enfin, c'était bref. Moi, j'avais trouvé ça hallucinant à quel point les femmes en PMA peuvent subir des violences gynécologiques. Et alors, pour en terminer là-dessus, même notre co-autrice, sans entrer dans les détails, qui elle était très positive sur le monde médical et tout ça, en parlant avec des gens, en parlant des violences gynécologiques et obstétricales, s'est rendu compte qu'elle en avait été victime.
Oui, mais c'est intégré. Enfin, en gros, le problème, c'est que c'est intégré pour les femmes, quoi. Enfin...
Et puis parfois, il y a aussi le fait de comment tenir tête à quelqu'un qui est censé te soigner aussi. Enfin, c'est très compliqué quand t'arrives, par exemple, aux urgences, que t'as n'importe quel problème d'ordre gynécologique au cours d'une grossesse ou du postpartum, et que en fait, c'est ultra compliqué. Enfin, il y a des moments où tu peux pas, et puis t'es pas en état de le faire aussi, c'est après coup. Mais du coup, Victor, ce que tu soulignes, c'est un petit peu ton côté naïf de ça, puisque tu ne le vivais pas de l'intérieur et tu t'as découvert. Et puis c'est vrai que de toute manière, on s'en rend pas toujours compte, c'est que parfois on a des super soignants, soignantes, et puis il y a des choses qu'on accepte alors qu'on devrait pas les accepter, parce qu'on se dit, bah non, c'est une personne qui est géniale et qui est ultra pro, et grâce à cette personne, je suis tombée enceinte. Enfin, il y a plein de choses qui se jouent, en fait, dans ces moments-là.
Bah oui, oui.
Oui, en plus, c'est injustifiable, quoi.
tous les couples qui sont en PMA sont quand même déjà assez fragilisés. Donc, t'arrives au rendez-vous, t'es vulnérable. T'es là parce que ça marche pas, t'as besoin d'aide, t'as besoin qu'on t'explique, qu'on te dise qu'on va tout faire avec toi, en équipe, pour que ça fonctionne. Donc, t'es prêt à faire ce qu'on te dit. Et si ce qu'on te dit, c'est des trucs absurdes, ou si ce qu'on te dit, ça te fait mal, tu l'acceptes aussi, quoi.
Mmh. Oui. Est-ce que c'est au nom de... cet objectif que tu as qui est d'avoir un enfant.
Bah, complètement. Oui, tu acceptes des trucs que tu n'accepterais jamais dans la vie normale. Et que, où tu dirais à n'importe qui, ah non, mais ça va pas, ça, faut que tu tapes du poing sur la table, te laisse pas faire, quoi.
Oui, et puis comme les violences gynéco-obstétricales sont aussi un tabou, c'est quelque chose qui, alors, j'ai l'impression que c'est un tabou surtout, des femmes vers les hommes. Dans le sens où, bah voilà, toutes les femmes ont l'air d'être au courant que tu subis des violences gynéco à un moment dans ta vie, et les hommes débarquent, quoi, on débarque complètement. Donc ouais, il y a un vrai tabou là-dessus qui peut-être pourrait être réglé sur le fait justement d'intégrer plus les hommes plutôt dans un parcours de santé sexuelle, mais c'est une discussion.
Non, mais il y a un truc qui est dur aussi en PMA, c'est que par rapport à des violences gynécologiques, tu verrais une fois un gynécologue et tu le trouverais agressif, désagréable, nul, tout ce que tu veux, tu changes. Tu te dis, la prochaine fois, je vais en voir un autre. Alors qu'en PMA, en fait, t'es là pour longtemps et tu peux pas changer tout le temps. Et voilà, donc à un moment donné, tu trouves quelqu'un dont on te dit qu'il est bien. Même si il y a des choses qu'il fait qui ne vont pas, tu peux pas te dire, je vais changer.
Mais non, mais je me souviens même des angoisses qu'on pouvait avoir parce que comme on était dans l'hôpital public, il y avait des équipes changent régulièrement, tu vois. Et il y avait un peu un côté, bon, j'ai rendez-vous, Estelle a rendez-vous là, je crois, à 15h. On sait pas sur quelle va tomber, quoi. Tu vois, on croise les doigts, en espérant que ce soit pas quelqu'un de maltraitant. Bon.
Il y a toute une partie que j'ai trouvé très intéressante dans votre livre, c'est la dimension économique de la PMA. Et là, pour le coup, alors moi, j'ai découvert quelque chose que je connaissais pas. Je pense que c'est aussi lié à notre regard très français de lié au remboursement des soins, à la sécurité sociale, où on se dit, bah, en fait, PMA ou pas PMA, vouloir un enfant, bah voilà, tu passes par un parcours hospitalier classique qui est encadré, tu vas être remboursé. Enfin, je pense qu'il y a un peu ça qui fait qu'on se pose pas la question quand on n'est pas confronté à la PMA. Mais vous, la dimension économique, elle ressort énormément de votre livre. Bah déjà, les inégalités économiques. Il y a une des personnes qui témoignent, Audrey, 34 ans, qui a été prise en charge dans une clinique privée en région bordelaise. Elle parle de 5000 euros. Souvent, on parle de ces sommes-là quand on part à l'étranger pour une PMA à l'étranger, mais on s'imagine pas qu'en fait, même en France, bah, on peut être amené à débourser ce genre de choses. Il y a aussi des tests type Matrice Lab, 500 euros, 350 euros pour le Fertility Check-up à l'hôpital intercommunal de Créteil. Enfin là, on est vraiment sur des sommes qui sont loin d'être anodines. Et forcément, les inégalités, elles sont là parce que tout le monde ne peut pas se permettre de débourser des sommes comme ça pour avoir un enfant. Et pourtant, ce que vous montrez aussi dans votre livre, c'est que bah, même des foyers qui paraîtraient plus modestes et donc n'ayant pas accès à ça, bah, ils peuvent quand même vendre une voiture ou faire des économies pour financer ça, là où pour d'autres, ce sera des sommes beaucoup plus anecdotiques. C'était important pour vous de montrer vraiment bah, ce type d'inégalité aussi.
Nous, par exemple, on est à Paris, donc on a une offre médicale très large. Et si on avait quitté le public, on aurait pu quitter le public pour le privé. Et on nous avait recommandé d'ailleurs plusieurs médecins dans le privé où la consultation était entre 150 et 200 euros. Quand on les voit une fois, très bien, mais en fait en PMA, vous êtes amené à le voir plusieurs fois par mois, éventuellement sur plusieurs mois, voire sur plusieurs années. Et donc là, les dépassements d'honoraires, ça atteint la folie. Et donc, on se disait aussi, mais comment font les gens qui n'ont pas les moyens que nous, on peut avoir, qui n'ont pas le choix sur le médecin, sur le centre hospitalier, sur le privé ou pas. Et c'est vrai que ça nous avait intéressé, c'est le travail d'une démographe qui avait fait une étude là-dessus sur les couples, effectivement, les différences de revenus et comment ils voient la PMA. Et en fait, le désir d'enfant écrase tout. Et clairement, quels que soient les revenus du couple, on est prêt à tout pour que ça marche. Et si c'est à un moment débourser plusieurs milliers d'euros, ben c'est débourser plusieurs milliers d'euros, faire un emprunt, emprunter à sa famille, à ses amis, vendre la voiture, voilà. Alors que bon, des couples plus aisés, c'est ne pas partir en vacances ou partir en vacances moins long. Enfin, beaucoup de témoins à qui on a parlé étaient prêts à tout et oubliaient la dimension financière, quoi. En tout cas, clairement, s'il fallait emprunter à leur famille, ils auraient emprunté à leur famille.
Tu sais, t'as ce côté, en fait, quand tu t'attends le bon moment pour avoir un enfant, c'est vrai pour plein de couches sociales, mais t'attends le bon moment pour avoir un enfant, c'est-à-dire d'avoir ton emploi stable et tout ça. Et donc, c'est un moment où tu te dis, bon, bah, c'est bon, j'ai le bon moment, j'ai assez de sous de côté, ou j'ai, pour avoir cet enfant, pour lui acheter tout ce dont il a besoin et tout ça. Et en fait, comme, tout ton projet, c'est d'avoir l'enfant, ces sous que t'avais prévus pour lui acheter n'importe quoi, pour faire sa chambre ou n'importe quoi, je sais pas trop quoi, tu le mets dans la PMA, tout simplement. Parce que, à quoi bon ces sous si c'est pour pas avoir d'enfant?
Ouais, alors du coup, j'ai cité des sommes qui étaient assez importantes. Vous mettez à un moment donné dans le livre une naissance par fécondation in vitro, sachant qu'il peut y avoir plusieurs tentatives et des parcours assez longs. Ça se chiffre à près de 14 000 euros. La dimension économique, elle irrigue aussi les inégalités de genre, puisque finalement, les personnes qui sont censées prendre des jours ou éventuellement se mettre en arrêt du fait d'un protocole PMA, ce sont les femmes, avec notamment celles qui vont se retrouver en arrêt, mais sur des jours de carence, qui seront pas payés ces jours-là, plus tout le retard dans la carrière, toutes ces petites choses qui font qu'elles évolueront moins vite que les hommes. Toute cette dimension, en fait, économique, financière de la PMA, vous en aviez conscience avant de vous lancer dans ce livre?
Alors, on s'en était un peu rendu compte, mais pas totalement, sur l'aspect professionnel, enfin monde du travail. Moi, je m'en étais un peu rendu compte parce que déjà les rendez-vous empiétaient sur ma vie professionnelle, que j'arrivais à décaler. Et puis nous, on est dans des métiers où on peut décaler un peu sa journée, aller à un rendez-vous à 9h, faire une prise de sang, et puis commencer à travailler à 10h, à 10h30. Mais j'avais bien conscience que pour tous les gens qui ont des horaires fixes, pour toutes les femmes qui ont des boulots peut-être moins qualifiés, mais en tout cas, ou de vendeurs, ou peu importe, mais où vous devez être au travail de 9h à 18h sans avoir le choix de décaler, là, en fait, il faut poser des arrêts pour aller faire des échographies, faire des prises de sang, attendre à l'hôpital, parce que des fois, le rendez-vous est en retard, donc vous arrivez en retard au travail. Et tout ça, par exemple, moi, j'ai appelé un jour mon employeur en lui disant, en fait, je suis aux urgences, je vais être opérée cet après-midi et je serai absente pendant 15 jours. C'est passé. Est-ce que c'était bon pour ma carrière? Je suis pas sûre. Voilà, j'avais fait une grossesse extra-utérine, du coup, j'étais obligée de le dire ou pas vraiment, mais en tout cas, tout ça empiétait clairement sur ma vie, mes ambitions, et puis c'est le moment où on va pas demander une promotion parce qu'on est en PMA. Notre but, c'est d'avoir un enfant. Donc, est-ce qu'on veut se rajouter du travail alors qu'on a déjà plein de rendez-vous à côté médicaux et qu'ensuite on espère une grossesse et qu'ensuite on espère un enfant? Il y a des petits renoncements qu'on fait, peut-être sans s'en rendre compte, mais qui empiètent déjà sur la carrière. Donc ça, je m'en étais déjà assez rendu compte. Et après, sur la partie financière, nous, on n'y avait pas vraiment été confrontés, même si on a bien vu qu'une IRM en libéral, parce qu'à l'hôpital, il y a trop d'attentes, et c'est 150 euros. Mais c'était des sommes qu'on pouvait payer, donc on les a payées, en fait. Mais tout en se rendant compte que ce qui nous posait pas de problème pouvait poser problème à des gens assez vite. Mais clairement, c'est pour ça aussi qu'on voulait avoir des témoignages de gens qui nous racontent plus concrètement ce que ça représentait pour eux. Et même, si tu veux, encore une fois, nous, on est à Paris, donc ça simplifie, enfin, on est dans une grande ville, ça simplifie les choses. Si t'es dans une petite ville et que déjà t'as une demi-heure, une heure de déplacement pour aller à l'hôpital, faire les examens, avant de retourner au travail, qui est je ne sais où dans le département, ça complique les choses.
Non, je pense qu'on avait juste une idée vague de ça, quoi. Ce à quoi nous on avait été confrontés, mais c'est vrai comme on s'est rapidement posé la question, on a rapidement compris à quel point ça pouvait être compliqué. C'est vrai que il y a plusieurs choses qui m'ont donné. C'est vrai que les inégalités territoriales, par exemple, ça c'est flagrant. Le fait que quand t'es en Corse, par exemple, et si tu veux faire une fille, il faut que t'ailles sur le continent. On dit, ça prend un temps fou.
C'est des allers-retours en avion, quoi.
Ah ouais, tu te projettes, tu te dis, ah ouais, si nous on avait dû faire ce truc-là pour à chaque tentative, ça aurait été, ça aurait été super long, super compliqué,
super cher aussi.
Super cher,
ouais.
Évidemment, parce que l'avion. Alors je crois que
la sécurité sociale rembourse une partie, enfin bon, mais c'est tout un truc qui est quand même compliqué à mettre en place.
Exactement. Un peu, c'est un peu en décalé, mais tu vois, tu parlais par exemple du coût d'une FIV. Moi, ce qui m'a beaucoup étonné aussi, alors effectivement, on est dans un pays qui rembourse énormément et on fait partie des meilleurs pays voilà, il y a des classements là-dessus sur l'accompagnement en PMA. On fait vraiment partie des meilleurs pays. Donc ça, c'est très cool. Mais ça, il y a des effets pervers un peu chelous. Je pense notamment à l'insémination artificielle. On en parle un moment dans le livre. C'est que comme c'est le mode de PMA qui coûte le moins cher à la Sécu, c'est celui qui est préféré. C'est-à-dire que si t'as pas un niveau suffisant d'infertilité, parce que ça se définit voilà par la gynéco, le gynéco en termes de niveau, quoi, c'est un peu au doigt mouillé pour le ou la gynéco, et ben tu vas passer par des inséminations artificielles. Or les inséminations artificielles, le taux de réussite, le taux de c'est 10% fonctionne amène jusqu'à un enfant. C'est-à-dire que t'as 9 chances sur 10 en faisant une insémination artificielle que ça ne fonctionne pas. Moi, je trouve que ce taux, il est délirant. Enfin, c'est énorme. Ça veut dire qu'on te fait prendre le risque, on te fait croire que ça va fonctionner, alors qu'on sait pertinemment que t'as 9 chances sur 10 pour que ça ne marche pas. Enfin, moi, je trouve ça délirant. Mais parce que ça coûte moins cher. Donc, on essaye. Moi, ça m'a beaucoup énervé de lire ce chiffre parce qu'on a fait des inséminations qui n'ont pas fonctionné. Et tu te dis, ah ouais, on a perdu un an et demi d'insémination.
Non,
bah,
c'était plusieurs mois, peut-être
un an, ouais. Où en fait on aurait pu aller directement en FIV, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il y a un moment pourquoi est-ce qu'on est obligé de passer par là, quoi? C'est délirant. Et c'est un des trucs qui explique pourquoi la France est aussi un des pays qui a un taux assez mauvais. En fait, on croit qu'on est très bon, mais parmi les pays qui sont les plus avancés sur la PMA, on est assez mauvais parce qu'on passe par ce truc d'insémination et qu'il y a plein de pays comme l'Angleterre, par exemple, où on va très très beaucoup plus rapidement en FIV. On estime que ça sert à rien de passer par des trucs qui sont aussi aléatoires.
Pour revenir sur les difficultés économiques, enfin, en tout cas, nous, on s'est rendu compte assez vite quand on a commencé à en parler autour de nous de la PMA, que les couples dans notre entourage, les amis d'amis qui étaient cadres à Paris, ils étaient tous dans le privé. Ils étaient tous en clinique privée parce que ça va plus vite et que le gynéco est plus disponible et que, enfin voilà, pour plein de raisons, mais personne n'était dans le public. Il y a eu très vite ce côté, tel couple... qui est un ami d'amis, ils sont suivis par telle personne qui est dans le privé à tel endroit, eux ils sont suivis là, eux ils sont suivis là, et personne n'était dans le public. Et donc il y a quand même un côté que faites-vous? Mais voilà, c'était ils avaient suffisamment d'argent pour se dire les dépassements d'honoraires, tant pis, on accepte et on veut quelqu'un de dispo et on veut que ça aille vite et on veut que ça marche, quoi. Alors que les taux sont pas forcément, enfin c'est pas ça qui garantit la réussite, mais en tout cas
donc ça garantit d'être plus rapide.
Ils étaient prêts à payer, voilà, pour être plus rapide. Ouais.
Ouais, comme un petit circuit parallèle, on se refile les bonnes adresses, ça se joue à la réputation aussi de tel ou tel médecin.
Complètement. Voilà, la secrétaire qui répond le soir, qui envoie des mails le matin tôt, enfin voilà. C'est vrai que l'hôpital public, c'est pas forcément ça.
Ah non.
Mais en tout cas, voilà, c'est des petites choses qui font penser que c'est mieux, ou en tout cas. Que ceux qui ont les moyens vont dans le privé.
Dans le titre, il y a le mot business. Et c'est quelque chose qui transparaît aussi dans le livre. C'est tout ce business autour de la PMA, les programmes de fertility yoga, enfin, j'ai découvert plein de choses que je ne connaissais pas. De toute manière, on peut aussi partir du principe que toutes les choses qui visent à se sentir mieux ou avoir un état de bien-être qui permettent d'affronter les choses plus sereinement. Voilà, ça a lieu d'exister, mais il y a aussi quand même des choses avec de la publicité mensongère où on promet de tomber enceinte plus rapidement. C'est vrai que moi, c'était un monde que je connaissais absolument pas puisque je ne suis pas passée par la PMA. L'idée, c'était quoi? C'était de mettre peut-être un petit peu en garde les gens en disant « Attention, ne commencez pas à croire tout ce qu'on vous dit, tout ce qu'on peut vous promettre, à partir d'un certain niveau de promesse, peut-être tomber enceinte plus facilement. »
Complètement, c'est-à-dire que effectivement, on est vulnérable quand on est malheureux parce qu'on veut un enfant et que ça marche pas. Donc on est prêt à tout essayer ou presque. Mais même nous, c'est-à-dire que il y a plein de choses qu'on n'a pas testées, mais c'est vrai qu'on nous aurait dit payer 500 euros, manger du pamplemousse tous les jours à la même heure. Et faites une séance de je ne sais quel sport chaque jour et ça va marcher dans 3 mois, je pense que j'aurais été prête à le faire. Et il y a plein de gens qui sont prêts à accepter des tas de trucs délirants qu'ils accepteraient pas en temps normal. Donc si ça vous fait du bien d'aller faire une séance d'acupuncteur, que l'acupuncteur vous écoute, vous vous sentez bien en sortant, tant mieux. Si vous y allez en vous disant je le fais parce que ça va marcher et ensuite il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, et si je le fais pas, et ben c'est pour ça que ça marche pas, c'est mauvais. Et puis c'est hyper culpabilisant pour les femmes.
Ben justement, j'allais rebondir là-dessus. Finalement, c'est un truc de plus qui concerne les femmes. Parce que j'ai pas l'impression que les hommes soient vraiment concernés par ce genre de choses.
Enfin, les hommes, voilà, on leur dit arrêtez de fumer. Les femmes, il y a vraiment des injonctions de bah oui, mais si ça marche pas, c'est parce que tu n'as pas essayé le yoga de la fertilité, tu manges pas bien, tu fais pas ci, tu fais pas autant de sport qu'il faudrait, tu fais pas je sais pas quoi. T'as essayé l'acupuncture, t'aurais dû essayer, tu devrais essayer d'aller voir telle personne.
Kinésiologue.
Le kinésiologue, il va te remettre en place, je sais pas quoi. J'ai vu quelqu'un, attends, c'est quoi? Tu sais qui te touche qui te touche le poignet et qui te fait revivre des traumatismes, je sais pas quoi.
C'est pas le kinésiologue justement?
C'est peut-être le kinésiologue. J'ai préféré oublier comment ça s'appelle. Bon, j'ai une amie d'amis qui m'a dit c'est formidable, tu vois cette personne, ça m'a changé la vie. Je me suis dit j'ai plus rien à perdre, j'y vais. Je crois que c'était 150 euros ou 120 euros l'heure. Et bon, ça n'a pas changé ma vie du tout. J'ai pas été convaincue. Mais je me dis, si moi, alors j'étais quand même assez cartésienne et j'étais pas prête à tout essayer, j'ai dit ok, j'essaye quand même. Il y a plein de gens qui vraiment tentent tout quoi, et du coup dépensent énormément d'argent. Et en plus avec cette culpabilité de, pourtant j'ai tout fait et ça n'a quand même pas marché. Et c'est ça qui est pire aussi, c'est j'ai tout fait, j'ai vraiment, ma vie est dédiée à la réussite de ce parcours et à la venue d'un enfant, et ça marche pas quand même. Ah, peut-être qu'il faut que je retourne encore plus faire je ne sais quoi, je fais pas assez le yoga, je fais pas assez ça, j'ai trop mangé de ci, j'ai mangé du sucre, j'aurais pas dû. Ah non, il faut, enfin, en fait, il faut réussir à continuer à vivre pendant le parcours PMA et pas à vivre que pour ça avec des injonctions toujours sur ce qu'on doit faire, pas faire.
Ce qui est marrant sur les hommes, c'est que alors ça y est, ça commence un peu à pénétrer les hommes aussi, hein, les injonctions à manger tel truc pour avoir un meilleur sperme et tout ça, mais c'est encore très 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 à la marge, très à la marge. Mais les inégalités se sentent même aussi parce que on a remarqué que même quand l'infertilité était du fait de l'homme, c'était quand même la femme qui allait faire outre les traitements, qui allait faire aussi toutes ces médecines douces, tu vois, pour faciliter l'implantation de je sais pas trop quoi, de pour une raison ou une autre, la femme, il n'y a aucun souci de fertilité pour elle, mais elle va quand même, c'est quand même elle qui va aller dépenser des sous pour faire toutes ces médecines, médecines entre guillemets, hein, dont on a parlé.
Encore une fois, je pense qu'il y a des gens à qui ça fait du bien et qui ont l'impression du coup d'être entourés, d'être écoutés, mais faut pas y aller en se disant j'ai besoin de payer ce coach, et il y a des choses où on ne sait pas pourquoi à un moment donné ça va marcher ou pas marcher.
Là, je me souviens que nous, à chaque fois qu'on faisait une nouvelle tentative, il y avait toujours un moment où je me disais, là, ça va marcher. Mais tu vois, parce qu'on est tous humains, mais je me disais, là, ça va marcher parce que j'avais, c'était tel jour que ça s'était passé, c'était tel machin, tu vois, à essayer de se raccrocher à des dates, à essayer de se raccrocher à des trucs un peu ésotériques comme ça. Et à chaque fois, ça marchait pas. Donc, c'est pour ça que, une fois que elle, ça a marché pour Salomé, tu te dis, oui, je peux essayer de me raccrocher à quelle date que ce soit, ça n'a rien à voir.
Une des dernières choses aussi qui s'est passée, c'est le 8 mars, vous vous êtes retrouvés au Trianon pour exposer publiquement les photos du projet Cicatrice. J'imagine que pour vous deux, ça a été un moment assez inédit, parce que vous avez eu en direct peut-être des réactions, des bruits dans la salle, les gens les découvraient tous en même temps. Vous l'avez vécu comment, cet événement?
Bah franchement, c'était assez c'était plein d'émotions. Enfin, avant on était assez on savait pas trop effectivement comment ce serait vu, vécu, est-ce que l'émotion allait passer ou pas? Est-ce que c'était trop intime ce qu'on dévoilait? Est-ce que ça allait parler même au couple qui n'avait pas eu du tout de difficultés? Et en fait, on a fini en pleurs. Non, c'est vraiment bien passé. Et après, ma belle-sœur a eu un truc assez touchant pour expliquer à ma nièce qui a 7 ans, qui avait des photos, enfin qu'on avait raconté notre vie avec des photos. Elle lui a dit, bah toi, quand tu lis des histoires, quand on te raconte des histoires, tu préfères qu'il y ait des images. Elle a dit, bah oui. Elle a dit, bah c'est pareil. Là, en fait, on raconte une histoire avec des images, et du coup, on se projette plus et les gens comprennent plus. C'était assez touchant comme expérience, et en plus, c'était assez inattendu parce que c'était pas forcément pour ça qu'on avait fait le projet, enfin, en tout cas pour le montrer, oui, mais pas forcément en se disant on sera sur scène, on va parler, voilà, pas dans ce cadre-là qui était tourné vers la maternité. Mais écoute, non, franchement, c'était une super expérience. Et en plus, j'ai trouvé ça bien de pouvoir en parler, si tu veux, de dire aussi, dans la maternité, il y a des difficultés avant la maternité. Et il y a des fausses couches, il y a des grossesses extra-utérines, il y a le deuil périnatal.
Ouais, que c'est pas à partir du moment qu'on accouche que tout commence, en fait.
Exactement. Il y a beaucoup de choses, et malgré tout, ça reste. Salomé, un jour, on lui dira comment elle est venue, si tu veux, et qu'elle était désirée, et qu'avant, il y a eu d'autres grossesses, en fait. C'est pas juste... je sais pas quelles histoires les parents racontent à leurs enfants, mais en tout cas, on ne dira pas juste un jour, on a voulu un enfant et c'est arrivé, quoi. En fait, il y a eu pas mal de choses et qui nous marqueront toujours. Tu vois, je pense que quand on sera vieux, on se souviendra quand même d'un certain nombre de choses de ces années-là. Donc, c'était assez touchant de pouvoir en parler. J'espère que ça a marqué un petit peu quelques personnes. Et si ça a pu en aider d'autres en se disant « je suis pas seule là-dedans » ou « ah, bah, j'ai une amie qui dit ça, peut-être que je devrais essayer de pas être trop maladroite et il y a des choses à dire et des choses à ne pas dire », bah tant mieux.
Non, puis ce qui était assez fort aussi, c'est qu'on avait des amis qui étaient dans la salle, deux amis d'Estelle qui étaient là dans la salle. Et c'était la première fois qu'elle voyait les photos de manière aussi frontale, quoi.
Oui, alors qu'elles étaient au courant, pour le coup, de notre parcours et tout ça, quoi.
Ouais, voilà, qui étaient très, très émues aussi en sortant, quoi, en ayant vu tout ça. Donc, non, ça, c'était assez fort. Toi-même, tu racontes d'ailleurs que, au début, parce qu'on déclame, hein, enfin, on parle sur les photos, quoi, c'est voilà. Et qu'au bout de 30 secondes, quand on était sur scène, t'essayais de regarder des gens dans la salle et t'étais tombé sur une femme qui était en pleurs.
Je lève la tête. En plus, vraiment, nous, on essayait d'être concentrés. Enfin, et puis, on savait pas du tout comment ça serait perçu. Donc, notre but, c'était, on arrive sur scène, on fait tout notre truc, on arrête, on sort, et puis voilà. Et entre les deux, on est concentrés. Et donc, effectivement, Victor parle, je lève la tête. Et là, je vois une femme qui pleure, mais vraiment à chaudes larmes. Et je me suis dit, oulalalala, elle, il faut pas que je la regarde, parce qu'on va jamais arriver au bout, quoi. Donc, on a réussi à aller jusqu'au bout.
Et toi, Victor, de présenter tes photos dans ce cadre-là, puisque bah voilà, c'est un projet qui vous concerne tous les deux, mais ces photos, c'est toi qui les as prises et c'est pas tous les photographes qui exposent leurs photos comme ça.
Alors c'est très particulier comme manière de montrer ces photos, notamment parce que, alors je sais pas ça, notamment parce que c'était un public à 99% de femmes. Que même j'étais le seul intervenant masculin toute la soirée. Donc il y a un côté un peu comment dire, on expose notre intimité et tout ça, et en même temps je suis vraiment devant un public qui est très au fait de tout ça, quoi. Il y avait un peu cette dimension supplémentaire, quoi, ce rapport supplémentaire au public. Mais bon, d'après ce que j'ai compris, ça a été bien, ça a été apprécié, quoi. Enfin, en tout cas, il y a eu beaucoup de très bons retours. Le fait d'être à deux, ça nous a permis d'être un peu plus fort là-dessus. Si j'avais été tout seul à exposer ces photos, ça aurait été peut-être un peu plus difficile de se retrouver directement face à ce public. Mais oui, c'était une expérience très forte, oui. Donc.
Est-ce que vous auriez, après toutes ces années que vous avez vécues de fausses couches, de PMA, cette grossesse, votre expertise aussi à votre niveau avec ce livre que vous avez coécrit avec Pauline, est-ce que vous auriez un conseil pour les couples là qui vivent la PMA, qui se lancent en PMA ?
C'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'histoires très différentes. Mais le conseil que je donne, que j'essaie de donner en tout cas toujours, c'est de trouver les bons interlocuteurs. Parce que pour certains, ça va être des proches, effectivement, avec lesquels on a envie d'échanger. Pour d'autres, ça va être certains proches, parce qu'il n'y a pas forcément tout le monde à qui on a envie d'en parler. Pour d'autres, ça va être pas du tout les proches, mais ça va être des gens sur Internet qui vivent la même chose que soi, et c'est très bien. Ça peut être se plonger dans des podcasts aussi, pourquoi pas. Tout ça à la fois, mais voilà, arriver à trouver des bons interlocuteurs et des personnes avec qui échanger sur ces questions-là, de surtout pas rester seul, parce que c'est ce que j'ai fait moi au début et ça n'a pas réussi. Après, ça peut être aussi de trouver, c'est avec la photo, de trouver une manière en tout cas de vivre la chose avec un pas décalé pour essayer de prendre un peu de recul sur ce qu'on est en train de vivre, même si c'est très compliqué, hein, même si c'est, voilà, moi c'était au départ pour faire un pas de côté, finalement ça a pris trop de place dans ma vie ce projet, donc voilà, il faut arriver à, voilà, peut-être l'autre conseil c'est d'arriver régulièrement à essayer de faire des points, d'arriver à un moment donné, après un échec, après un rebondissement, n'importe quoi, d'arriver à se poser et à en rediscuter de manière directe avec sa compagne ou quand on est seul avec les gens qui nous entourent, hein, parce qu'on peut être une femme seule aussi dans ce parcours-là. Mais voilà, d'arriver à ne pas rester seul.
Je pense qu'il ne faut pas se surestimer soi, ni surestimer son couple. Et qu'il faut être prêt à demander de l'aide et qu'il faut savoir dès le départ que ça va être une épreuve et qu'il y aura des claques. Et même que si tout se passe bien et que ça se passe relativement rapidement, en fait, c'est dur. Et il faut pas se dire, moi je suis au-dessus de ça et nous on est super et voilà. Oui, ça c'est l'état d'esprit au départ. On est super fort et on va y arriver. En fait, il y a des trucs et c'est pour ça qu'il y a des couples qui se séparent, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui renoncent, et qu'il y a des femmes qui en sont très malheureuses, des hommes aussi, hein, mais en fait, faut pas se dire qu'on est super fort et qu'on est prêt à tout et que à la fin, forcément, ça va marcher, quoi. Faut être prêt à vivre un peu au jour le jour, à en parler, à avoir des moments où on touche le fond, et à se dire, bon, bah, c'est normal, ça fait partie de la vie, à un moment, peut-être que ça ira mieux, et sûrement, déjà, ça ira mieux après, et voilà, et trouver des choses qui nous font plaisir au quotidien, des choses qui nous font tenir. Alors ça peut être des projets en lien avec ça ou qui n'ont rien à voir. Ça peut être se lancer dans la poterie, se lancer dans la lecture, la peinture, quelque chose qui nous fait du bien, le sport, la randonnée.
Cette conversation touche à sa fin et je tiens à remercier Estelle et Victor d'avoir répondu présente et présent pour ces retrouvailles. Pour en savoir plus sur leur parcours, je vous invite à écouter l'épisode 17 du podcast. Et si la question de l'infertilité vous concerne ou vous interroge, je ne saurais que trop vous conseiller le livre qu'Estelle Dautry et Victor Point ont coécrit avec Pauline Pellissier. Ce livre, il est intitulé « Génération infertile, de la détresse au business, enquête sur un tabou » et il a été publié début 2022 aux éditions Autrement. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour un autre épisode consacré à la question de la PMA. Nous retrouvons Dalila Pielot, psychologue clinicienne, pour évoquer ensemble le vécu de ce type de parcours, parfois ponctué par le deuil périnatal ou d'autres deuils plus symboliques, comme le deuil de la grossesse spontanée ou même le deuil d'avoir un enfant. En attendant, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux et plus particulièrement sur le compte Instagram aurevoir.podcast pour découvrir du contenu supplémentaire sur le deuil périnatal. Je vous dis à très bientôt.